En attendant, il est 19h22 minutes sur France Inter, c'est le téléphone sonne. Bonsoir Arnaud Bousquet.
Bonsoir Alain.
Des bêtes qui ne sont pas tant que ça.
Saviez-vous par exemple que la mésange, quand elle a soif devant une bouteille de lait, elle comprend qu'elle doit percer l'opercule de la bouteille pour accéder au liquide, et c'est ce qu'elle fait avec son bec, alors que nous, ben on s'en fiche plein les doigts et on jure comme des charretiers. C'est la preuve que les animaux sont parfois plus intelligents que les humains et en tout cas bien moins grossiers.
France Inter, le téléphone sonne.
Ça fait à peu près 10 000 ans que l'homme, avec un H majuscule et un orgueil encore plus majuscule, considère, et ça l'arrange bien, que l'animal est au mieux une machine, au pire un objet qu'il faut éventuellement essayer de domestiquer s'il peut nous donner un petit coup de main ou un petit coup de patte dans notre vie quotidienne, le domestiquer aussi pour mieux le croquer. Bref, sur l'échelle de l'intelligence et de l'évolution animale, il y a plein d'étages. Les mollusques et les poules tout en bas, les chevaux et les chiens un peu plus haut, et bien sûr l'homme au sommet, point final. Et puis le petit prince est arrivé. Et là, il y a un renard aux oreilles pointues qui apparut et demanda au petit prince de l'apprivoiser. « Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. » Alors on referme le livre de Saint-Ex et on se dit « Mais alors, renard, as-tu du cœur ?» Eh bien oui, le renard et les animaux ont un cœur, une sensibilité, des larmes, un sens de l'humour, de la pitié, une mémoire, des valeurs. Alors, heureusement pour l'ego des humains, pas tous les animaux avec toutes ces capacités, mais quand même, plus la recherche sur l'intelligence animale progresse et plus c'est un appel à la modestie pour l'homme et pour les religions aussi. Et sans tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire considérer l'animal comme notre égal, eh ben il faut bien dire respect. Respect le renard, le corbeau, le bonobo, la cigale et même la fourmi. Vous nous appelez dès maintenant. Le standard du téléphone sonne vous est ouvert, 01 45 24 7000, pour poser à nos invités toutes les questions qui vous turlupinent ou qui attisent votre curiosité sur l'intelligence des animaux. Vous intervenez en direct dans l'émission, mais vous pouvez aussi nous laisser un message sur notre site franceinter.fr ou grâce à Twitter avec le hashtag Telsonne. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Sabrina Krief. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vétérinaire, primatologue, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des chimpanzés, auteur avec votre mari qui s'est occupé des photos des chimpanzés des monts de la Lune, c'est aux confins de l'Ouganda et du Congo. Près de vous dans ce studio, Pascal Pic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France, spécialiste des grands singes et de l'évolution de l'homme, et auteur du livre « Je marche, donc je pense ». Au téléphone, et nous sommes très honorés de vous recevoir puisqu'on vous présente comme l'un des spécialistes mondiaux de l'intelligence animale, France Deval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue et primatologue, et le titre du livre que vous ferez paraître dans quelques semaines, il résume à lui seul toute l'émission de ce soir, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux ?» Merci d'être avec nous et à mes côtés, Sophie Bécherel. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service reportage de France Inter, spécialisée dans les questions scientifiques. Alors ça ressemble à un sujet de bac philo, excusez-moi de commencer avec ça, mais l'homme est-il un animal comme les autres ? Pascal Pic.
Non, certainement pas. Chaque espèce est unique. Alors, il y a deux attitudes par rapport à cela. Est-ce qu'on considère, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que l'homme est maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes, et les animaux sont appréciés en fonction de leur utilité qu'ils peuvent avoir pour nous, et puis les autres, évidemment, sont laissés dans l'ignorance. Il y a quand même une caractéristique de l'homme. Aujourd'hui, c'est un peu une tendance de dire que on veut sortir de cette histoire avec un grand H depuis un peu moins de 10 000 ans quand même, mais qui a placé l'homme dans la culture occidentale au-dessus des autres animaux, et en se disant non, on va remettre les choses à plat, et puis en fait l'homme est un animal parmi les autres. Sauf que l'homme a un effet sur la planète, et puis qui est absolument considérable. L'homme a un effet sur les écosystèmes qui est considérable. Et puis autant que j'adore les bonobos et les grands singes sous l'œil de Sabrina Krief, on a jamais vu ces grands singes faire une émission sur nous, mais à partir de là, effectivement, on s'aperçoit que toutes ces études que l'on va certainement évoquer en fonction des questions des auditeurs nous montrent que ce n'est pas l'homme qu'on animalise par ces études et ces comparaisons, c'est qu'en fait, les chimpanzés, les grands singes et d'autres espèces, sur d'autres lignées bien plus éloignées, mais pour revenir aux grands singes qui sont les plus proches de nous, sont beaucoup plus humains qu'on ne l'a jamais imaginé. Donc ce n'est pas l'homme qu'on animalise, ce sont en fait ces grands singes, et sans anthropomorphisme, on parlera des méthodes, qui deviennent en fait beaucoup plus proches de nous dans ce qu'on a cru longtemps être le propre de l'homme.
Ce sont les animaux qui sont des humains comme les autres.
Ah non, quand même pas.
L'échelle des espèces avec une graduation en fonction de l'intelligence et l'homme tout en haut, c'est fini, France Deval ?
Oui, ça vient des Grecs. Hein. Moi, je peux pas parler si vite que vous, mais parce que français c'est pas ma langue. Mais c'est vrai que pendant les derniers 50 ans, on a entendu toutes ces claims de comment l'homme est unique. Il y a chaque année, il y a un autre, ou chaque 5 années, il y a un autre capacité qu'on trouve que c'est uniquement humaine. Et on a cherché les scientifiques. On a constamment cherché à trouver des évidences pour ce genre de capacités chez les autres animaux, on a toujours trouvé. Alors, sauf pour la langue, que moi je trouve une capacité humaine unique, le symbolisme et la langue, mais pour le reste, pour par exemple penser dans le futur, penser dans comme Proust, dans le passé, les événements de passé, dans tout ce qu'on fait, le construire des outils, tout ce qu'on peut penser qui est uniquement humain, les scientifiques ont trouvé qu'en fait c'est pas vrai et qu'en fait certains animaux sont dans certaines choses même mieux que nous. Alors, toute cette échelle est en train de disparaître. Et moi, je suis biologiste. Alors, pour moi, l'homme est un animal. Un animal peut-être spécial, mais c'est un animal comme les autres.
Oui. On a une question de Alain qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir, Alain.
Bonsoir. C'est presque une émission à elle toute seule, ma question, parce que compte tenu de ce que je viens d'entendre, je voulais parler d'un sujet que beaucoup de gens qui sont là connaissent, c'est Kanzi, le bonobo. J'avais vu le documentaire Kanzi, le singe aux mille mots, et puis j'en ai vu d'autres. C'est un singe, en deux mots, il est capable de communiquer à travers un lexigramme, on appelle ça un tableau sur lequel il y a des mots qui représentent ce qu'il veut dire. Mais il comprend tout, il est capable de mémoriser. Là, je suis sur Internet, je vous conseille d'aller voir sur le journal Le Télégraphe. Maintenant, il apprend à cuire ses marshmallows, c'est-à-dire qu'il allume le feu, il les fait cuire sans le brûler, et il détient le feu comme on lui l'a dit. Il est capable de tout faire, ce singe. Son frère a pas les capacités d'apprentissage. Quand on parle au frère, l'autre, il rapide pour faire l'interprète. Et j'ai vu, alors, plus surprenant, c'est que c'était, alors, je sais pas si c'est un documentaire ou un autre, un des singes était mort, et les singes s'étaient réunis, apparemment, ils étaient tristes, et comme on peut échanger avec eux, bah, ils disaient qu'il y en a un qui est plus là, il est ailleurs. C'est le souvenir, j'en ai un ailleurs, en guillemets. Donc, quand on voit ça, et quand on voit ce dont est capable l'être humain, et on le voit actuellement, c'est vrai que je me demande où est la limite. Alors, dernière question, on nous expliquait, et on voyait le singe, il n'arrivait pas à parler, parce que son larynx n'est pas fait comme le nôtre. Alors, la question est la suivante. Comment se fait-il, c'est vraiment ma réflexion qui m'était venue, personne n'a essayé de modifier, le larynx du singe pour qu'il puisse réellement parler et qu'on échange avec lui.
Voilà. Sabrina Krief, il ne lui manque que la parole au singe.
Oui, et pas tant que ça. En fait, quand on les observe en milieu naturel, ils ont des capacités de communication qui sont tout à fait étonnantes. Donc, on les met pas forcément dans des conditions d'utilisation de lexigramme. Effectivement, on a quelques exemples de chimpanzés ou de bonobos qui ont montré des capacités très intéressantes. Mais en milieu naturel, ils sont capables de communiquer par des gestes, par des postures, par des mimiques faciales qui montrent une palette tout à fait intéressante, avec aussi des actions qui permettent de comprendre leurs intentions en fonction des communautés, des groupes où l'on se trouve. Donc par exemple, pour faire la cour à un congénère, dans certains groupes, certains chimpanzés vont cogner contre un tronc d'arbre, alors que dans d'autres endroits, ils effeuilleront des branches, feront des sortes de petits confettis. Et donc c'est là l'intelligence humaine qui est mise en question. Comment sommes-nous assez intelligents effectivement pour comprendre ce que les chimpanzés ou les bonobos veulent laisser entendre.
Et puisqu'évoquait Alain, quel est le rapport et la conscience d'un animal face à la mort. D'abord, la mort d'un des siens ou d'un proche.
En fait, on a fait, nous sommes avec des espèces qui ont une très longue vie. Si vous pensez à nos gros animaux domestiques comme les vaches ou les chevaux ou le chien, c'est toujours un malheur parce qu'ils meurent entre 10 et 15 ans, un peu plus parce que maintenant on peut les maintenir. Mais en fait, il faut savoir qu'on a affaire à des espèces qui peuvent vivre 40, 50 ans, certains individus 60 ans. Donc ça veut dire que d'abord, il y a une enfance qui est longue. Après une longue gestation, le sevrage est vers 4 ou 5 ans. 3, 4, 5 ans. L'enfance va vers jusqu'à 8 ans en moyenne. Ensuite, une adolescence qui est plus courte que chez nous. Et l'âge adulte arrive entre 11 ans, 13 ans, 14 ans. Et après ça, si ça va bien, ils peuvent vivre 40 ans ou 50 ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans ces sociétés-là sans émotion, sans empathie, sans sympathie. Alors France de Val en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc ça veut dire, si vous avez vécu pendant des années avec des personnes autour de vous, avec des relations sociales, de la communication, comme a dit Sabrina, avec des clans, avec des cultures, parce qu'il y a des traditions, c'était très bien dit par Sabrina, un individu qui disparaît, ça peut pas s'effacer des mémoires comme cela. Donc à partir de là, malheureusement, on a très très peu d'observations. Et moi j'avais rencontré France de Val il y a fort longtemps, donc je salue ce cher ami France d'ailleurs au passage, lorsque j'avais fait un film il y a une vingtaine d'années, où on voit, au zoo d'Arnhem, où France a commencé à travailler d'ailleurs...
Aux Pays-Bas,
absolument. On voit un cas de mort de chimpanzé qui peut faire évoquer un suicide. Et on a très peu de cas d'observation dans la nature, mais il est très clair qu'il y a effectivement des comportements qui ne sont pas du tout habituels autour de la mort. Quant à dire qu'ils ont la notion de finitude, c'est une autre question qui est plus philosophique. Mais en tout cas, la notion de la perte de vie est tout à fait claire chez eux.
France de Val, est-ce que l'animal a éventuellement cette conscience de sa propre mort? Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sent qu'il va mourir?
Ça, c'est très dur à dire. La réponse, la mort des autres, par exemple, à Arnhem Zoo, en Hollande, récemment, Mama est mort. C'est la grande femelle qui était la femelle alpha du groupe, qui avait 59 ans à sa mort. Elle était morte et souvent, quand un singe meurt en captivité, au moins, les autres, ils sont complètement silents. Ils mangent pas pendant quelques jours. Ils sont très affectués par ça et c'est parce qu'il y a un attachement aux personnes, aux individus. Mais de là conclure qu'ils connaissent leur propre mort, ça va loin. On sait pas et on sait pas vraiment comment mesurer ça, comment on peut savoir ça en fait. Et c'est très bien que les éléphants ou les dauphins ou les chimpanzés connaissent leur propre mort et peuvent prévoir ça, mais on n'a pas moyen, les scientifiques, ils n'ont pas de moyen de savoir ça.
Sabrina Kriev, vous êtes passionnée, même prise d'amour pour les chimpanzés. Ça vous fait un point commun avec Léo Ferré qu'on évoquait ici même avant-hier. Comment d'abord vous en êtes arrivée à leur consacrer votre temps et votre vie?
Alors, je suis vétérinaire de formation. Je suis partie à la fin de mes études suivre 6 chimpanzés orphelins donc qui avaient été victimes du braconnage, dont les mères avaient été tuées, qui ont été relâchés en milieu naturel. Et je me suis intéressée à la question de leur réhabilitation en milieu naturel. Est-ce que ils allaient réussir à se nourrir, à survivre dans cette grande forêt qu'ils ne connaissaient pas?
Et à se soigner, parce qu'on ne sait pas s'ils ont conscience de leur mort, mais ils ont conscience de leur mauvaise santé et ils peuvent trouver des remèdes.
Voilà, donc rapidement, je me suis rendu compte que parmi les plantes qu'ils consommaient, certaines étaient utilisées par les populations locales comme de la médecine traditionnelle. Et donc, j'ai essayé de comprendre si ces plantes-là étaient utilisées par des individus malades ou bien des individus qui présentaient des comportements particuliers. Et donc, par la suite, j'ai travaillé en Ouganda sur des chimpanzés sauvages. Et donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le parc national de Kibale pour essayer de comprendre cette question. Et en milieu naturel, on se rend compte que les chimpanzés sont intéressés et prête une curiosité particulière aux individus qui ont des plaies, par exemple, ou qui sont souffreteux, qui vont tester, par exemple, un individu qui a des abcès, qui est mourant, tester la réaction en touchant le corps. Et suite à la mort, Christophe Bush a très bien décrit des comportements de veillée et des intérêts pour des individus qui n'étaient pas au cœur du groupe auparavant. Mais quand l'individu est mort, par exemple des jeunes femelles, là, les chimpanzés étaient regroupés autour et portaient une attention tout à fait particulière et pouillaient le corps mort.
Sophie Becherel.
On le voit, ce que l'on apprend des animaux se fait à la fois en milieu naturel et dans des conditions de zoo ou de captivité. Est-ce que les résultats qu'on obtient se contredisent? Est-ce qu'on a appris des choses en captivité qui ne se répètent pas dans le milieu naturel et inversement? Est-ce que ce que l'on apprend est très différent, complémentaire ou contradictoire?
La plupart du temps, je pense que c'est complémentaire. L'avantage de l'expérimentation en milieu captif est qu'on peut contrôler les conditions et donc avoir vraiment des questions de recherche vraiment bien posées. Dans le cas de l'automédication, c'est très compliqué parce qu'on ne va pas rendre malade un chimpanzé, même s'il est en parc zoologique, ou, pour avoir la réponse à notre question. Par contre, on a pu se rendre compte qu'en comparant chimpanzés, orang-outans et gorilles face à des plantes nouvelles qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient des plantes médicinales de la pharmacopée française cette fois-ci, les réactions des individus des différentes espèces étaient différentes. Le chimpanzé est très curieux, le gorille a tendance à manger très rapidement toutes les plantes et l'orang-outan est intermédiaire. Et donc on se rend compte de la part sociale de la découverte d'une plante par exemple.
France Deval, vous vouliez compléter cette réponse?
Oui, il y a de plus en plus de collaborations maintenant entre des scientifiques qui travaillent dans la nature et ceux qui travaillent en captivité. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences dans la captivité, mais toujours j'essaie de comprendre comment ça s'est lié au comportement naturel. Et d'autres directions, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent dans la nature, qui reviennent avec beaucoup de choses pour le ADN et les samples, comment dire, de urine et tout ça, et qui enlisent ça dans le laboratoire. Alors il y a toute une collaboration maintenant, et toute cette distinction entre, qui était très fort il y a peut-être 20 ans, entre l'étude dans la nature et l'étude en captivité, toute cette distinction est en train de disparaître parce qu'on a besoin de tous les deux pour comprendre. Il y a certaines choses qu'on peut pas faire en captivité ou en expérimental. Par exemple, la question que vous demandez, comment ils réagissent à la mort d'un autre. Bien sûr, on va pas faire d'expérience là-dessus. Ça dépend de comportements qu'on observe. Mais par exemple, la question qui est au début, la communication et la langue. La communication naturelle des chimpanzés n'est pas assez étudiée. On a fait plein d'études sur comment ils apprennent un langage symbolique. Et ils font ça d'une certaine façon, mais la recherche sur le comportement naturel et la communication naturelle est seulement au début en ce moment.
Beaucoup de questions nous arrivent au 01 45 24 7000. Joël, depuis le Val d'Oise, bonsoir Joël, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Je réfléchissais en écoutant ces témoignages-là de ce qu'allait devenir un petit peu notre regard sur les animaux en général, enfin bon, les primates bien sûr, mais beaucoup d'autres, après qu'ils aient été reconnus bien tardivement être sensibles et puis de plus en plus être intelligents, en quoi notre regard sur eux va se modifier, peut-être dans le sens d'une plus grande empathie, peut-être dans le sens aussi de plus de droits, ce qui pose la question du droit, peut-être que nos invités pourront y répondre. Pour ma part, j'aurais envie de leur demander... est-ce que ce sont des droits particuliers ou est-ce qu'il s'agirait simplement de leur restituer la plupart des droits qu'on leur a piqués finalement, à commencer par le droit de vivre, d'exister, alors que souvent ce droit-là est confisqué. Si vous pensez non pas forcément à des primates, mais à des animaux qui subissent l'élevage intensif, c'est-à-dire pour lesquels tous les éléments de la vie sont inexistants depuis la conception jusqu'à la mort. Il y a cette question du droit là qui revient là-dessus.
Voilà. Pascal Pic peut vous répondre. On leur doit quoi?
Alors évidemment, de toute façon, même dans une culture comme la nôtre, dans laquelle, dans l'héritage de Descartes, on a séparé l'homme de l'animal, l'âme du corps, l'instinct des acquis, il est très clair que... Moi, je suis un spécialiste des origines de l'homme. L'animal est toujours présent. La découverte du mammouth, ça a ouvert la préhistoire. La découverte du rhinocéros, ça a découvert ses autres civilisations. La découverte des grands singes, ça va donner, à la fin du XIXe siècle, une autre ouverture. Donc, on n'est jamais à côté de l'animal. C'est très clair. Même si on croit l'être, on n'en est jamais. Maintenant, pour le droit, il est très clair. Par exemple, on découvre, et c'est intéressant de parler d'autres lignées, que chez les céphalopodes, donc les pieuvres et les poulpes, etc., il y a des capacités cognitives absolument remarquables. Et du coup, ces animaux flasques, qui ne sont pas des vertébrés, aujourd'hui bénéficient, et l'Europe vient de décider cela, de nouveaux droits en captivité pour les poulpes. Les poules, on s'aperçoit qu'elles sont pas si stupides que cela, loin de là. Et donc, effectivement, ça a obligé à faire bouger la législation sur ces élevages en batterie. Donc, il est très clair que maintenant, on ne peut plus sortir de cette commodité en disant, bah, que l'animal, c'est une machine. Après tout, donc, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensibilité. Et donc, on s'en sortait de manière amorale, mais en tout cas confortable. Aujourd'hui, effectivement, ça change complètement notre rapport par rapport à cela. Donc, sur l'éthique, sur le droit, sur l'expérimentation, et sur l'élevage, il est très clair qu'il y a déjà des impacts considérables et de grandes avancées. Oui.
Et ça, c'est grâce aussi à l'avancée de la recherche.
Mais bien sûr, ça vient de là, absolument. Voilà. Et donc, du fait, à partir de là, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et donc, à partir de là, c'est en toute conscience, on peut se dire, ok, je peux manger de la viande ou pas, mais derrière, j'ai une prise de conscience parce que c'est une position philosophique intéressante. Ma responsabilité peut-elle maintenant continuer dans l'ignorance de ce que font avancer ces connaissances?
France Inter, le téléphone sonne, Arnaud Bousquet.
Quelques réponses vraiment très très courtes parce que on a des questions particulièrement précises. Tiens, comme celle de Manon qui a 14 ans et qui se réveille puisqu'elle habite en Nouvelle-Calédonie. Les chats ont-ils la notion du temps et ont-ils des sentiments? C'est-à-dire que quand le maître s'absente 2 mois, est-ce que le chat en est affecté? Alors, c'est pas votre spécialité, les félins. Est-ce que vous avez quand même quelques éléments de réponse? Qui veut tenter?
Il suffit d'aller les retrouver et vous voyez leur réaction. Ils sont absolument heureux. Moi-même, j'ai des chiens et on m'a dit que, non, attendez, votre race de chiens, je citerai pas, mais on peut pas les garder parce que s'ils sont tout seuls, eh bien, ils se laissent mourir. Eh bien, j'ai dit non, heureusement, ils sont en couple. Eh bien, voilà. Moi, j'ai entendu des choses complètement dingues, hein, soyons très clairs, des gens qui disaient, ah, mais les chiens, lorsqu'ils ont pas vu leur maître depuis quelques jours, voire une semaine, ils les ont complètement oubliés. Jamais de la vie. Et donc, ils dépriment et ils sont en relation empathique très très forte, bien sûr.
Et une question de Laure, toujours sur les chats. Mon chat est parti mourir seul après avoir repéré les lieux la veille. Il a choisi son moment pour s'éteindre. Comment expliquer cela ? Sabrina Krief.
Nous, nous est arrivé à peu près la même chose avec une vieille chimpanzée qui est sortie de la forêt pour aller mourir à l'extérieur de la forêt. Elle s'est isolée de son groupe social et allée mourir dans des plantations. Donc, du coup, j'ai cherché s'il y avait pas mal de témoignages de ce type-là. Et en fait, il y a assez peu de choses scientifiquement décrites. Mais par contre, beaucoup dans les anecdotes qui expliquent, c'était un peu la question de tout à l'heure, hein, que un animal qui se sent faible a tendance à s'isoler et donc il y a plusieurs hypothèses. L'une pour les fourmis étant par exemple d'éviter d'attirer les prédateurs sur le groupe social et donc probablement aussi de mourir tranquille.
Nous partons à Pontarlier. Bonsoir Jacques. Jacques est avec nous.
Oui,
depuis la Franche-Comté. Bonsoir. On vous écoute Jacques.
Oui, alors,
vous vouliez nous parler des chiens guides d'aveugles.
C'est plutôt une confirmation. Une confirmation de l'intelligence du chien, principalement le chien guide d'aveugle. Parce que le chien guide d'aveugle ne travaille pas grâce à ses dons naturels, de son flair extraordinaire, qu'ont les chiens, ou ses dons de chasseur. Le chien guide d'aveugle travaille à la parole de son maître, des ordres vocaux de son maître, et qui lui dit à droite, à gauche, en avant, le passage piéton, enfin tout ce qu'il faut, la porte du magasin. Donc le chien fait ça vraiment par intelligence, je pense.
Et apprentissage.
Bien sûr. Il y a un an de... Alors il faut surtout pas dire un an de dressage, c'est un an d'éducation. C'est des écoles... Il y a de nombreuses écoles en France et dans d'autres pays, et ils ne sont pas dressés, ils sont éduqués.
France de Waal peut vous répondre.
Oui, c'est vrai que les chiens, dans ce cas-là, ils sont très entraînés et conditionnés de faire certaines choses. Moi, j'ai toujours la question, est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'ils comprennent vraiment l'incapacité de personnes aveugles pour voir? Mais je connais un cas de deux éléphants. On travaillait en Thaïlande avec deux éléphants où un des deux était aveugle et l'autre n'était pas aveugle. Et ils étaient amis, les deux. Et celui-ci qui n'était pas aveugle, moi, je pense elle comprenait la situation de l'autre parce que si l'autre faisait un tout petit bruit, son ami qui pouvait voir venait tout de suite à côté et le guidait vers les endroits où il fallait aller. Et j'avais l'impression qu'elle n'était pas entraînée, c'était pas un comportement entraîné, c'était un truc qu'elle faisait spontanément. Elle avait la capacité de comprendre l'incapacité de l'autre, et ça c'est bien sûr un cas d'intelligence très, très haute.
Sophie Bécherel.
Ce qui est très intéressant, c'est que là on comprend que vous nous rapportez des cas observés. Comment les scientifiques que vous êtes peuvent-ils mettre en évidence un résultat? Parce qu'effectivement, Frans De Waal, vous qui avez beaucoup travaillé sur l'empathie, qui l'avez mise en évidence, comment, par exemple, démontrer qu'un chien d'aveugle, démontrer ou ne pas démontrer qu'un chien d'aveugle a conscience de la cécité de son maître?
Ben, il faut créer des situations qui sont nouveaux, mais où la capacité de voir, c'est très important. Par exemple, si tu marches dans la rue et il y a un objet très bas que tu peux cogner ta tête là-dessus, est-ce que les chiens comprennent que la personne ne peut pas marcher là et il faut l'arrêter, mais sans être entraîné de faire ça? Et il faut faire des expériences dans ce cas-là. Et expérience avec des chiens où on connaît toute l'histoire d'entraînement aussi. C'est dur à faire, mais tout ça, c'est possible à faire.
Expérience et apprentissage avec les chimpanzés, Sabrina Krief.
Oui, mais surtout là, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la communication inter-espèce. C'est-à-dire que le chien communique avec une autre espèce. Le deuxième cas qui est se rendre compte de l'incapacité d'un autre éléphant, d'un congénère, est vraiment différent. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant. Dans le cas des chimpanzés, en fait, on essaye de mettre un peu en pratique ces questions d'empathie, puisque malheureusement, on a 30% des chimpanzés qui souffrent d'amputation de bras, de pieds à cause du braconnage. Et donc, on s'intéresse à la réaction des congénères vis-à-vis de ces animaux
mutilés.
Et donc, on regarde, par exemple, on est dans une zone où l'anthropisation est très forte, on a une grande route qui traverse et on se rend compte qu'en fait, les animaux les plus faibles sont encadrés par les individus les plus valides et les plus hauts hiérarchiquement.
Toujours cette notion d'empathie. Hein,
alors, d'empathie ou en tout cas de protection et d'encadrement des individus qui semblent les plus faibles. Donc il y a bien une prise de conscience d'une incapacité qui existe.
Pascal Pic.
Alors, la notion d'empathie est très large hein, dans le monde animal, ça c'est très clair. Maintenant, en ce qui concerne l'exemple donné par Frans De Waal à propos des éléphants, on le retrouve aussi avec les dauphins, on le retrouve chez les chimpanzés et bien sûr chez tous les grands singes. Et là, une fois de plus, comme on parle du monde animal, on a affaire à des espèces chez lesquelles la vie sociale est très longue, une fois de plus. Et un des aspects les plus importants, tout à l'heure on a parlé de Kanzi, qui est ce bonhomme exceptionnel, là c'est une intelligence individuelle où il réussit des tests, etc. Mais on s'aperçoit que l'essentiel du développement cérébral se fait dans les relations sociales et qu'effectivement, ces notions de qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire se représenter l'état d'esprit de l'autre et peut-être son invalidité, appartient à ces espèces qui sont très sociales et qui vivent très longtemps.
On va revenir sur ce que vous évoquiez, Sabrina, à savoir les rapports entre les différentes espèces et une question de la jeune Ima qui nous appelle du Languedoc-Roussillon. Bonsoir Ima.
Bonsoir.
On vous écoute. On t'écoute Ima.
Alors ma question c'était, est-ce que les animaux domestiques au cœur d'une famille se considèrent de la même façon que nous, enfin sont conscients de leurs différences en fait?
Allez, qui veut répondre? Pascal Pic.
Ah, c'est la grande difficulté. Lorsque vous avez un chien, il est très clair qu'il n'a pas le choix que de faire partie de la meute. Et évidemment, ça va dépendre de la place que vous lui donnez. Maintenant, quand vous avez plusieurs chiens, et moi j'en ai deux, c'est très intéressant. Ils ont un comportement avec nous qui n'ont pas du tout lorsqu'ils sont entre eux. Hein, voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, s'il est tout seul, le chien, il n'a pas le choix. Maintenant, effectivement, il a son territoire, il va se comporter dans la meute. Et d'ailleurs, il y a une connivence entre les hommes et les chiens depuis 30 000 ans. Hein.
Et puis, vous parliez des relations entre les chiens, mais est-ce que les animaux parviennent à développer des codes pour communiquer entre eux, même quand ils ne sont pas de la même espèce? Une maison avec un chien, avec un chat, avec un perroquet, une tortue, un cheval, un lapin, est-ce qu'ils communiquent?
Ah oui, ça fait, hein. Sauf qu'on ne les observe pas. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose. Moi, je vais à la campagne, j'ai aussi des chevaux. Moi, j'ai vu des fois des comportements que je n'avais jamais vus dans les livres, parce que je suis cavalier. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous montrent souvent ce qu'ils ont envie de nous montrer d'une certaine manière, même si ce n'est pas intentionnel. Donc en fait, là aussi, on peut dire qu'on ne connaît pas les chimpanzés depuis très longtemps, dans la nature ou d'autres espèces, mais le comportement de nos animaux domestiques lorsqu'ils ne sont pas avec nous, quasiment, c'est une lapalissade, pardonnez-moi, c'est une tautologie, mais nous échappe complètement. Donc là aussi, c'est un monde encore ignoré.
Jacques nous appelle d'Angers. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir. Merci pour votre excellente émission. Et oui, j'ai pas mal de questions. Il y avait aussi une forme de commentaire, je dirais. Je trouve que plus les sciences évoluent, plus on s'aperçoit qu'on vivait sur des tas de lieux communs. Par exemple, au Moyen-Âge, la sorcellerie, on pensait que ça existait. Par exemple, il y a 50 ans, on disait que les bébés ne voyaient pas à la naissance. Des tas de choses comme ça. Et en fait, quand on regarde la manière dont l'être humain vit, on vit totalement comme les animaux, avec des dominants, des dominés, avec des comportements sexuels qui sont, je dirais, différents, des choses comme ça. Et je pense que il serait beaucoup plus judicieux. On a inventé de ce fait des choses totalement farfelues. Parce que, par exemple, moi, je me pose la question, si la religion existe vraiment, si Dieu existe vraiment, mais pourquoi les animaux sont pas inclus là-dedans? Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. C'est bien une invention humaine qui a aucun sens. Et puis, j'ai aussi une autre question. On a parlé surtout des mammifères, des grands primates. Mais, quand on voit, par exemple, comment sont organisées les fourmis dans des fourmilières, des trucs comme ça, ou les termitières aussi, ça provient bien d'une forme d'intelligence, ce genre de choses, je pense. C'est pas arrivé par hasard.
Sophie Becherel peut vous répondre. Non, France Deval.
Oui, l'intelligence, chaque animal a de l'intelligence. Chaque animal a des problèmes à résoudre. Parce que les gens pensent souvent qu'il y a beaucoup d'animaux qui marchent seulement sur l'instinct. L'instinct, ça ne suffit jamais. Il y a toujours quelque chose à apprendre, et même des insectes apprendre des choses. Et toute la recherche qu'on fait maintenant sur la cognition animale, on trouve que ça commence souvent avec des chimpanzés et des bonobos, qu'on trouve certaines capacités qu'on n'avait pas pensé que les animaux ont. Mais après, on le trouve dans les corbeaux, après on le trouve dans le dauphin, après dans le chien, après dans d'autres animaux. Et souvent, après, on trouve ça même chez les insectes et d'autres animaux. Et par exemple, la capacité d'utiliser des outils, ça a commencé bien sûr avec les chimpanzés, mais maintenant on a toutes sortes d'espèces, même des octopus qui utilisent des outils. Alors, ça c'est l'histoire de notre recherche, et en fait, l'intelligence, on trouve partout.
Sur ce que nous disait Jacques, le renvoi à la chose religieuse, c'est vrai que ça pose un vrai souci, la morale, la moralité des animaux. Parce que les croyants estiment que la moralité ne peut se voir que par et grâce à la religion. Donc c'est impossible d'admettre que les animaux soient dotés d'une moralité qui a finalement pas grand chose à nous envier.
Ah non, je pense que c'est moins une question de religion que de philosophie. Parce qu'en fait, il y a des modes de pensée fondamentaux dans les différentes cultures humaines. Et nous, dans la culture occidentale, c'est le dualisme qui a dominé. Donc l'homme, l'animal, l'inélaki, j'y reviens, l'âme, le corps. Quand vous allez chez nos amis et collègues japonais, ils ont, eux, des cultures qui sont plus animistes. Et pour eux, ça leur pose aucun problème que des chimpanzés aient des outils et des cultures, parce que leur pensée fondamentale n'est pas du tout la même. Donc, et dans la tradition catholique, Saint François d'Assise, etc., il y avait une véritable intérêt pour les animaux. Et beaucoup de croyants disent que, comme ces animaux ont été créés par Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Donc, c'est une question d'interprétation qui n'est pas centrée que sur la philosophie ou la théologie, mais je crois que le problème vient plus, comme l'a dit d'ailleurs France Deval, de la philosophie anthropocentrique grecque, qui vraiment nous a mis dans cette position tout à fait unique par rapport au reste des animaux.
Pour conclure l'émission, un témoignage de Claude depuis le département de l'Aude. Bonsoir Claude.
Bonsoir. Oui, voilà, mon épouse souffre de maladie d'Alzheimer, et j'ai récupéré il y a quelques années une petite chienne border collie qui avait à l'époque 1 an, et il venait de la SPA. Et mon épouse était déjà malade, et je ne sais pas comment ce chien a réussi à comprendre que mon épouse était malade. Lorsque je me promène avec ce chien et ma femme, le chien fait n'importe quoi, il a besoin de courir. Lorsque ma femme s'en va seule, je dis bien seule, et moi je la surveille, le chien reste en permanence avec mon épouse. Et ça, il ne le fait que si mon épouse est seule. Si moi je suis avec mon épouse, le chien ne le fait pas. C'est assez bizarre. Il a compris que ce chien, que mon épouse était malade et qu'elle avait besoin d'une surveillance.
Merci de votre appel, Claude. C'est de l'intelligence ou c'est de l'instinct ou un peu des deux, Sabrina Krief?
Non, c'est probablement de l'intelligence, en tout cas une adaptabilité, une compréhension des émotions aussi, puisque c'est pas simplement une question de capacité cognitive, mais aussi de transmission de liens affectifs qu'on observe dans de nombreuses espèces et entre les espèces, encore une fois.
Mais c'est étonnant parce que ces animaux, lorsque ils ont affaire à une personne qui souffre d'un handicap, parce que la maladie d'Alzheimer est très handicapante, ils ont une attitude complètement différente, parce qu'ils sont pas dans une relation comme avec leur maître, ou de dominance, ou de dominé. Et à partir de là, en équitation, c'est pareil. Les chevaux sont pas réputés pour une extraordinaire intelligence, mais vous avez un bon cavalier qui monte sur un cheval. Si le cavalier fait des erreurs, il va pas louper le cheval. Par contre, vous mettez un handicapé sur le dos du cheval, ce qu'on appelle l'équithérapie, et là, les chevaux vont se comporter d'une manière complètement coopérative, affective, et vous avez donc des jeunes enfants handicapés qui vont se trouver complètement épanouis.
France Deval, pour conclure là-dessus.
Oui, un ami à moi, récemment, il avait cassé sa patte et il commençait à boiter, bien sûr, parce que il était allé à l'hôpital, est revenu avec ça. Et son chien, ça c'est intéressant, a commencé à boiter aussi. Alors tout de suite, ils ont pensé, bien sûr, que le chien était malade, qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose. Non, ça c'est l'empathie. Ouais, le chien a identifié avec cette personne-là et a commencé à boiter.
Merci de votre témoignage qui nous fait sourire, mais c'est très beau, Sophie Becherel.
Oui, tout récemment, c'est aussi en observant le comportement de chiens vis-à-vis de leur maître qu'on a compris leur capacité à sentir des molécules odorantes dans des maladies comme le cancer. Et c'est désormais aujourd'hui utilisé à l'hôpital, la détection par le chien notamment, de certains types de cancers.
Notamment le cancer du sein, oui.
Pascal Pic, on va finir avec le sourire. Vous avez deux chiens, donc vous allez peut-être comprendre cette citation de Desproges. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. C'est inavouable, ça, dans notre société, ce sentiment?
Oui, dit comme ça, parce que c'est évidemment c'est complètement misanthrope, pas du tout. L'amour qu'on peut avoir avec les animaux n'est pas exclusif de l'amour aux hommes, et soyons très clairs, comme le dit notre ami Franz Boris Cyrulnik, que je salue au passage, un chien sera d'autant plus heureux qu'il sera dans une famille nombreuse où il aura sa place de chien.
Sabrina Krief, l'amour pour un animal, c'est pas une exclusivité?
Non. Non, pas du tout. Et évidemment, c'est comme le dit très bien Pascal, c'est trouver sa place et que chacun puisse s'épanouir au sein d'une famille ou d'un environnement.
Ils nous font du bien, hein, les animaux. Ils vous font du bien. C'est un régulateur d'humeur.
Ah bah moi, c'est les chimpanzés sont une partie de ma famille, oui, c'est sûr.
Sophie Becherel.
Au-delà du sentiment qu'on peut avoir pour eux, toutes ces études qu'on mène quand même sur le monde animal nous renvoient à des choses que l'on ignore sur l'homme et sur sa capacité à s'adapter et comment notre cerveau fonctionne. Faut pas l'oublier aussi, toutes ces études, elles servent en retour à nous comprendre.
Et on a encore, Pascal Pic, plein de choses à découvrir sur l'intelligence animale.
Ah bah pour terminer avec les chimpanzés, le fait de découvrir qu'ils ont des outils, qu'ils font de la politique, des systèmes sociaux, ça donne une vision beaucoup plus humaine, par exemple, de Lucie et des Australopithèques. Voilà, ça rend tout ça beaucoup plus intelligent.
Merci à tous pour vos questions, vos interventions, vos messages. L'intelligence animale est prouvée. Exemple à l'instant avec ce texto que vient de m'envoyer Lassa, ma chienne labrador de 6 ans. Elle nous a écoutés et a dit qu'on a été très bons. Voilà. Sabrina Krief, texte et images magnifiques autour des chimpanzés des monts de la Lune aux éditions Belin. Pascal Pic, Je marche donc, je pense, paru aux éditions Autrement. Et France Deval, on attend avec impatience pour fin septembre aux éditions des Liens qui libèrent votre livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Et merci à Sophie Becherel de la rédaction de France Inter qui m'accompagnait ce soir. On n'oublie pas Marie-Claude Malartic, Jérémy Younes et Octavie Morel qui m'ont aidé à la préparation du Téléphone Sonne, une émission qui était techniquement pilotée par Loïc Frapsos et Henri Bérec. Demain, il s'agira de la dépakine, des scandales sanitaires et du danger, alors danger caché, présumé ou réel, des médicaments. Je vous souhaite d'ici là une très très belle soirée sur France Inter, il est 20h.